Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans le cadre de ce podcast consacré à Chimurenga et à cet événement exceptionnel, la bibliothèque Chimurenga, qui a pris place du 2 avril au 9 mai 2021 sur les trois niveaux de la BPI, la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou à Paris, je vous propose dans cet épisode une rencontre avec Anthony Edjabe, le fondateur de cette aventure Chimurenga en Afrique du Sud, et qui nous parle depuis l'Afrique du Sud. Bonjour Anthony Edjabe.
Bonjour Anne, merci. Merci beaucoup de me recevoir dans votre podcast. C'est un plaisir.
Oh, pour moi aussi, je suis ravie. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur, vous êtes DJ. La musique occupe une place très importante dans votre vie et dans votre travail, d'après ce que j'ai pu voir. Vous êtes né au Cameroun, vous avez étudié au Nigeria, vous vivez en Afrique du Sud et vous êtes le fondateur de Chimurenga et de toutes les activités qui gravitent autour. Chimurenga, c'est une plateforme panafricaine fondée par vous en 2002. Elle comprend un journal culturel, Chimurenga Magazine, une revue trimestrielle, The Chronic, la bibliothèque Chimurenga, dont nous allons parler, une publication biannuelle sur la urban life africaine, et aussi une station de radio en ligne qui s'appelle PASS, The Pan-African Space Station. Je voulais aussi signaler que Ngoné Fall, la commissaire de la grande saison Africa 2020, qui continue de se dérouler puisque beaucoup de choses ont été décalées à cause de la pandémie, j'ai vu a posté récemment sur Facebook, en parlant de vous et de Chimurenga, elle a dit « le légendaire Chimurenga ». Donc nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Donc avant de parler de Chimurenga, est-ce que vous accepteriez de nous dire en quelques mots votre parcours de votre naissance jusqu'à l'Afrique du Sud, en fait, de tout ce qui a précédé Chimurenga, et puisqu'à un moment, c'est né, si j'ai bien compris, ça a été le fruit d'un parcours et d'un contexte.
Oui, non, tout à fait. C'est, à mon avis, c'est, Chimurenga, c'est un peu le nom qu'on donne à une sorte de quête de réapprendre nos noms, de réapprendre nos histoires. Et surtout d'apprendre à les partager, de faire sens, you know, ce que ça veut dire de vivre, d'imaginer, de lutter dans nos Afriques. Et ce n'est pas seulement le résultat de ce parcours personnel, mais c'est aussi une sorte de... C'est pour ça qu'on choisit de l'appeler plateforme. C'est aussi un espace où beaucoup d'autres gens se retrouvent et c'est un espace où on essaie de produire du langage pour parler de nos réalités, nos expériences et voilà, pour apprendre surtout, pour apprendre. Mmh. Donc oui, sans trop rentrer dans ma biographie... C'est inévitablement lié parce que je pense que c'est de me retrouver en Afrique du Sud au début des années 90, au moment où ce pays devient, disons, indépendant politiquement à la fin de l'apartheid. Je crois que c'est ce moment-là qui crée, ou au moins qui suggère qu'il faut une plateforme qui signale que la lutte n'est pas achevée, que la lutte continue et qu'elle continue sous d'autres formes. Et donc, Chimurenga d'appeler, au début, ça apparaît d'abord comme une revue, comme une publication unique, une collection de textes qu'on nomme Chimurenga qui ce mot veut littéralement dire la lutte dans le contexte zimbabwéen de la lutte anticoloniale dans ce pays-là. Mais aussi le sous-titre de cette collection, c'est la lutte continue. Voilà, c'est bien lié à nos parcours personnels, mais aussi collectifs.
Ouais. Oui, parce que vous, au Nigeria, je crois que vous étiez en contact avec Fela, avec aussi, il y a eu tout un épisode qui a dû être fondateur, non?
Oui, tout à fait, parce que je vis en Afrique du Sud grâce à mon séjour au Nigeria. Je pense que, je ne sais pas, c'est difficile de savoir, mais j'aurais difficilement imaginé de venir en Afrique du Sud à ce moment-là si je n'étais pas passé par le Nigeria et s'il n'y avait pas eu cette rencontre, pas seulement avec Fela, le personnage, mais surtout avec sa façon de penser, l'esprit critique qu'il partageait, la grammaire qu'il a rendu accessible à des gens plus jeunes comme moi, de regarder notre réalité avec un autre œil plus critique. Je pense que c'est tout ça qui me fait décider déjà de venir en Afrique du Sud à ce moment-là.
Oui, parce qu'il y a à ce moment-là en Afrique du Sud, quand vous dites la lutte continue, c'est parce que si j'ai bien compris, en fait, l'apartheid officiellement est terminé, donc il y a toute une partie de la population qui dit il n'y a plus de problème. Et en fait, il y a des problèmes.
Bon, ce qui devient évident à ce moment-là, puisque c'est la première fois pour moi, mais aussi pour ceux et celles de ma génération, de vivre le moment d'indépendance. You know, nos parents ont vécu ça dans les années 60, dans les années 50. Mais c'est à ce moment que moi, personnellement, j'ai un sens réel, un vécu de ce que c'est, ce processus de devenir indépendant politiquement, de construire un État, une nation. Et je vis ce processus en Afrique du Sud en direct. OK. Bon, en Afrique du Sud, c'est le résultat d'une longue lutte de près d'un siècle. Qui a pris une dimension armée. Donc, ce n'est pas nécessairement un processus, disons, politico-administratif, comme ça a été le cas dans beaucoup d'autres pays d'Afrique. Et donc, on est peut-être capable de tirer, si pas des conclusions, mais au moins de réaliser ce que nos parents ont vécu et d'en tirer des leçons. You know? Ce que je ne sais pas si j'étais capable de faire auparavant. Précédemment. Donc, il y a vraiment un nouveau langage, une nouvelle grammaire qui devient accessible pour moi, pour relire le Cameroun dans lequel j'ai vécu, mais aussi pour lire la distinction avec le parcours des Nigériens, du Nigeria dans lequel j'ai fait mes études. Donc, à ce moment-là, d'imaginer Chimurenga comme une plateforme panafricaine, c'est de dire que ce n'est pas seulement lié à ce qui se passe en Afrique du Sud et à l'histoire de l'Afrique du Sud, mais c'est un espace dans lequel on réfléchit sur nous, tu vois, cette totalité, cette somme de parcours différents, d'épreuves différentes dans des contextes complètement différents. Voilà.
Et donc, au moment où vraiment il y a la naissance de Chimurenga, donc c'est la revue, je crois, en premier.
C'est devenu la revue. Nous l'avons finalement reconnue comme une revue. Mais au départ, la plupart des contributeurs et moi-même, nous avions d'autres occupations. C'était vraiment un espace où on pouvait écrire ce que nous n'étions pas capables d'écrire ailleurs. Mmh. OK. Et donc, au départ, c'est une collection de textes qui met en évidence la relation entre la musique et la politique. C'est aussi pour ça qu'on choisit ce titre, Chimurenga, parce que c'est aussi le nom d'une musique zimbabwéenne qui soutient la lutte de libération là-bas. Donc, ce mot encapsule un peu tout ça. Parce qu'à l'époque, en Afrique du Sud, justement, je ne dirais pas le consensus, mais disons que le mot d'en haut, le mémorandum, c'était que voilà, la lutte politique est terminée. Ce qu'on devrait faire maintenant, c'est d'être de bons citoyens. Et Et ça, ça se manifestait d'abord dans le monde culturel. Ça, on le vivait, que tout le travail critique que la culture, dans le sens le plus large du terme, produit, n'est plus nécessaire, on devrait plus produire quelque chose d'entertainment, enjoy, quoi.
Voilà, c'était plus justifié donc, de mettre sur la table des choses qui étaient désagréables.
Voilà, donc Jim O'Lingers, c'était un peu une sorte de réaction à ça, ou de réponse, et de dire non, la musique doit garder son, je veux dire, sa dimension utopique, you know, de proposer, pas seulement de critiquer, mais aussi de proposer vraiment un imaginaire dans lequel nous ne sommes pas encore. Voilà, et de justifier pourquoi c'est nécessaire et comment continuer dans cette ligne. C'était ça, cette collection de textes. Et la réponse des lecteurs, parce que pour nous, c'était, voilà, on s'associe et puis on publie ça. Et je distribuais chaque copie dans les événements, les concerts et tout ça. C'était une collection de textes. Mm-hmm. Mais la réponse, les gens, tu t'imaginais que c'était le premier numéro d'une revue. Ils ont commencé à envoyer des textes eux-mêmes. Ah, j'aimerais être dans le prochain numéro. Non, il n'y a pas de prochain numéro. C'était vraiment un once-off. Jusqu'à ce que plusieurs mois plus tard, un ami qui faisait partie du groupe, mais qui était reparti au Kenya, Binyavanga, Wainana, qui n'est plus avec nous, malheureusement. Il écrit donc de là-bas. Et il écrit ce que ça veut dire pour lui d'être rentré au Kenya. Et ça, on décide sur la base de son texte de produire un deuxième volume de cette collection. Et donc, on est passé comme ça de volume 1 à 2 à 3 à 4. Ça nous a pris du temps, en fait, de décider que c'était une revue. Au départ, c'était vraiment des réponses à des réponses. Et je pense que cette dimension organique est restée un peu au centre de comment on produit notre travail.
Et alors, le Pan-African Market, parce que j'ai lu qu'il y avait quelque chose à voir avec ça aussi au début de l'histoire.
Le Pan-African Market, c'était ça la première intervention, en fait. C'était de créer un espace physique avec des amis, des collègues à Cape Town, où on pouvait se retrouver. Un des éléments de la construction de l'Afrique du Sud, de la nouvelle Afrique du Sud, c'était aussi de déterminer qui est sud-africain et qui ne l'est pas. Et donc, qui faisait partie du nouveau projet et qui en était exclu. Et les premiers exclus, comme c'est souvent le cas, c'était d'autres Africains qui s'étaient retrouvés ici, donc des gens comme moi, et qui étaient venus d'autres parts du continent. Donc, il fallait créer une sorte de, pas seulement refuge dans le sens littéral, mais aussi un espace où on pouvait imaginer ensemble, où on pouvait se retrouver sans que les passeports qui nous ont amenés ici soient des barrières, mais plutôt des bridges, plutôt des ponts. Voilà, c'était ça l'idée du Pan-African Market au départ. Et Chimurenga, en fait, c'est une réaction à ça. Dès qu'on commence à se retrouver comme ça et à discuter au-delà de nos nationalités, nos origines, à des projets communs, il faut tout de suite, il y a la nécessité d'un espace intellectuel et artistique qui circule ça au-delà du Pan-African Market devient évident. Donc voilà, tout s'enchaîne un peu comme ça, oui. Très naturellement.
Et comment naît alors le concept de la bibliothèque Chimurenga ? Parce que moi j'ai vu celle de Paris, mais ça, maintenant il y en a eu plusieurs déjà, on va en parler à l'étranger. Mais au tout début, je sais comment l'idée vous vient, mais j'aimerais que vous nous expliquiez, puisqu'en fait il y a eu un précédent dans le monde réel avec les étudiants au moment de l'apartheid et puis ensuite la naissance de la bibliothèque Chimurenga. Quel est le lien ?
Bon, c'est ce désir de créer une généalogie pour soi-même, pour nous-mêmes, parce qu'on fait ce travail, pendant quelques années, mais c'est aussi de signaler que c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Il y a des méthodes, il y a des histoires qui produisent cette façon de travailler, d'être ensemble. Et donc, la bibliothèque, c'était au départ une sorte de tentative de rassembler ces histoires de possibilités qui nous ont précédés dans des contextes différents, que ce soit au Kenya, en Ouganda, avec Transition, au Nigeria, avec Black First, etc., etc. Donc, j'avais invité nos collaborateurs, les contributeurs de la revue, de signaler un peu quelles ont été les revues qui les ont influencées, qui les ont nourries dans leur travail critique, d'écrivain créatif et tout ça. Et on rassemblait ce matériel sur un site où on demandait, on faisait des interviews avec les fondateurs et les fondatrices de ces revues, avec les contributeurs, etc., etc. Et donc, c'était une sorte de d'espace mémoriel, you know what I mean? Chacun et chacune venait avec des histoires. OK, moi, je viens d'Ouganda et quand j'étais plus jeune, je lisais Transition. Voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée de devenir auteur ou autrice. Et voilà, dès que quelqu'un mentionnait Transition, on essayait de trouver des contributeurs, les éditeurs de cette revue. On fait des interviews avec eux. C'est ce travail au départ qu'on a appelé la bibliothèque Chimurenga. C'est une sorte de système de référence qu'on avait créé pour nous-mêmes.
Oui.
Mais aussi dans le contexte sud-africain, de dire, OK, si on est une revue, on aimerait produire l'histoire qui nous a produite, en fait, la rendre visible, la partager. D'autres revues panafricaines ou alors avec une conscience noire qui ont été établies ici, même au moment de l'apartheid. Voilà, il fallait un peu produire cette généalogie. Et ce travail-là de se mettre dans le passé, de regarder dans le futur, c'est ça qu'au départ, on a appelé la bibliothèque Chimurenga. Puis ensuite, avec mes collègues, on passait beaucoup de temps à la librairie nationale qui est basée ici à Kétan. Et toutes ces références qu'on accumulait déjà, qu'on produisait dans notre revue, mais aussi qu'on accumulait à travers tous les contributeurs et contributrices, on ne les retrouvait pas dans la bibliothèque nationale. Il n'y avait aucune présence de tout ce matériel qui nous a nourris et que nous-mêmes nous étions en train de produire. Et donc, on a petit à petit, en passant du temps là-bas et en lisant, on s'est donné une sorte de homework de passer quelques heures chaque jour là-bas à essayer de ces objets qui sont absents, ces livres, ces enregistrements, ces films, que même si les objets eux-mêmes sont absents, il y a des traces dans la collection de la bibliothèque où on pourrait les rendre plus visibles, plus accessible, au moins marquer leur absence.
Voilà.
Et voilà, donc on a commencé, on a utilisé des signes entre nous, des petits codes qui rendaient visible aux membres du groupe que, OK, tel livre de Fanon n'est pas dans la collection, mais Fanon est mentionné ici et là et là, et mettre tous ces points en relation. Et ensuite, insérer une petite citation de Fanon. Voilà, comme ça, Fanon, par exemple, devenait présent, même s'il n'était pas nécessairement représenté, you know.
Oui. Oui.
Voilà. Et voilà, toute cette méthode, bien sûr, aussi a son histoire, parce qu'en Afrique du Sud, on n'a pas, les Noirs n'avaient pas, pas accès à la connaissance de cette façon-là, parce que la production de la connaissance et sa circulation est toujours guidée. C'est une question de pouvoir. Et donc, il y avait aussi déjà des méthodes que des étudiants utilisaient, que des militants utilisaient pour partager, pour produire des connaissances. Et voilà, on a utilisé ces mêmes méthodes, incliner le ligne d'une certaine façon pour que une de nos collègues, si elle voit comme ça, c'est qu'il y a un truc dedans, donc le prendre, regarder. Voilà, c'est un système de signes. Et ensuite, voilà, c'est petit à petit devenu une sorte de méthode qu'on voulait installer dans d'autres librairies, pas seulement celles que nous, on utilise tous les jours, mais dans d'autres librairies, mais surtout d'utiliser ça comme une sorte de système de recherche, de passer du temps dans une librairie basée sur l'histoire de... Alors, quand je dis librairie, je veux dire bibliothèque.
Oui, bibliothèque, voilà. En français, c'est bibliothèque.
Voilà. Donc, de passer du temps dans une bibliothèque et essayer d'utiliser ce temps de lecture dans cette bibliothèque pour faire de la recherche sur une question ou alors sur des questions précises basées sur ceux et celles qui fréquentent cette bibliothèque, sa collection, etc., etc. Voilà, au fur et à mesure, c'est ça qui s'est établi comme la bibliothèque Chimurenga qui est une méthode surtout, c'est pas vraiment une collection en tant que telle.
Oui. Mais toute la signalétique, là, de la signalisation alternative, marquage au sol, marquer les livres qui manquent dans les rayonnages ou ceux qui sont là, il y a un moment où j'imagine des gens de la bibliothèque en question se sont rendus compte, non, que vous faisiez ça. Est-ce que ça a été toléré? Comment ça s'est...
En fait, après quelques mois, c'était évident qu'il fallait collaborer avec les bibliothécaires. Au départ, c'était resté dans un circuit fermé, mais à un moment, les bibliothécaires eux-mêmes sont devenus curieux de ce qu'on faisait parce qu'on était là tous les soirs. Et puis, c'est devenu un projet. La bibliothèque a vraiment embrassé ce projet parce que ça leur donnait l'opportunité de lire, d'avoir une deuxième lecture de leur propre collection. Et donc, voilà, c'est devenu un projet qu'on a finalement installé en 2009 à la Bibliothèque nationale de Cape Town et qui est encore présente. Donc, toute la signalétique que nous avons produite il y a 12 ans, je pense, est encore présente dans la bibliothèque. Et c'est devenu, ça fait partie d'une sorte d'installation permanente aujourd'hui.
Oui. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui vous décide à créer des bibliothèques Chimurenga à d'autres endroits dans le monde ? Parce qu'il y en a eu d'autres entre celle de Cape Town et celle de Paris. J'ai vu qu'il y en avait eu plusieurs déjà.
Bon, comme c'est à mon avis, c'est une méthode assez, pas seulement efficace, mais aussi, je veux dire, vraiment générative. La question pour moi, c'est comment écrire l'histoire dans un contexte où les archives documentaires sont toujours absentes, ce qui est un contexte assez généralisé en Afrique. Quand je veux dire la question de l'archive ici, c'est toujours contesté. Ce qui l'a produit, quand je parle de l'archive, je dis l'archive officielle, ouais, qui l'a produit, avec quel motif et tout ça. Et donc, il faut un système alternatif de lecture de tout ce matériel, mais aussi d'articuler la présence des histoires qui sont souvent portées par le corps, et pas dans des textes ou alors des livres, des enregistrements. Par exemple, les revues noires qui luttaient contre l'apartheid en Afrique du Sud, c'était dans tout leur intérêt de rester invisibles. Donc, que ces revues ne soient pas disponibles, qu'elles ne soient pas dans l'archive, c'est tout à fait normal. Et donc, comment signaler cette présence, comment signaler cette absence dans l'absence d'une archive documentaire. C'est un peu ça la méthode. Et ensuite, il fallait utiliser cette méthode sur d'autres questions, d'autres projets dans lesquels nous manquons aussi de traces documentaires tangibles. Et donc, la bibliothèque est donc devenue, dès qu'on a une grosse question, par exemple, sur un festival comme Festa qui s'est passé au Nigeria en 77, on se dit, pourquoi ne pas utiliser la bibliothèque Chimurenga comme méthode de recherche? Aller dans les librairies à Lagos ou alors aller dans une librairie à San Francisco où il y avait plein de gens qui ont participé à ça. Il n'y aura peut-être pas de test, mais le corps porte ces informations et comment rendre ça tangible, visible, lisible, légible. Voilà, c'est donc cet expériment qui transporte la bibliothèque d'un endroit à un autre depuis près de 10 ans.
D'accord. Donc, plusieurs bibliothèques Chimurenga donc, ont maintenant eu lieu. Qu'est-ce qui... Je me demandais ça en visitant à Paris, à la BPI. Je me demandais qu'est-ce qui change d'un pays à l'autre. Qu'est-ce que vous, de votre position, à la fois en amont avec les équipes qui préparent et puis durant le temps que dure une bibliothèque Chimurenga et peut-être aussi après, qu'est-ce qui change d'un pays à l'autre? Puisque pour chaque pays, quand vous êtes hors du continent africain, là je parle... pour chaque pays, la bibliothèque Chimurenga s'inscrit dans une histoire et un contexte différent.
Oui, absolument. Et dans le contexte français, ce qui change, je ne vais pas généraliser, mais dans le contexte français, c'était clair que ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'illusion, la propagande, que la question noire, c'est quelque chose qui est importé du monde anglophone, surtout des États-Unis, et que le monde francophone en général, c'est-à-dire pas seulement en France, mais aussi dans les anciennes colonies françaises, qu'il n'y a pas une sorte de conscience raciale à cause de, you know, du modèle républicain, l'universalisme, etc., etc. Bullshit, c'est, ça n'a pas de sens. Et donc, mais ça ne suffit pas simplement de dismiss, you know, de rejeter ce genre de statement. Il faut faire le travail pour articuler, you know, surtout pour les plus jeunes, qui se rendent compte que non, ce n'est pas quelque chose qui est importé. Ça a toujours été là. Fanon a d'abord écrit en français, publié en français en 1956 et ensuite en 1961. Tout ça, toute cette production intellectuelle critique qui s'est disséminée ensuite dans le reste du monde est partie de là. C'était des maisons d'édition françaises, c'était des maisons d'édition parisiennes même. Et donc, Paris était un centre important, je le dis dans le past tense, parce que là, aujourd'hui, c'est évident. Mais Paris était, pendant au moins la durée du XXe siècle, un centre très, très important, au même que Londres, au même que New York, de ce qui est finalement reconnu comme les Black Studies. Et voilà, il fallait signaler ça, surtout aux plus jeunes, que c'est pas quelque chose qui est importé des États-Unis. Donc voilà les traces documentaires, voilà les textes, ceux qui sont présents, ceux qui sont pas absents, pourquoi ils sont absents, et pour que dans le monde noir francophone, de dire non, il y a une archive, quoi, il y a en fait une bibliothèque, de se dire noir en français, vous n'êtes pas un ovni, you know, vous n'êtes pas il y a un contexte historique dans cette même place qui vous a produit de gens, de vos parents, de leurs parents qui ont produit des choses pour essayer d'articuler ça et essayer de combattre ça, essayer de combattre le système qui produit les Noirs, voilà, etc., etc. Je n'entre pas en détail là-dessus. Donc c'était un peu ça la question. Bon, pourquoi choisir la BPI pour faire ce travail? Parce que ce n'est pas nécessairement la BPI qui a la plus grosse collection de matériel sur cette question, mais sa position stratégique, le fait que depuis le milieu des années 70 ou la fin des années 60, il y a vraiment beaucoup de jeunes noirs qui vivent dans cette ville de Paris et qui se retrouvent à cet endroit-là. Ça peut être des circonstances, ça peut être un design, mais ou alors les moyens de transport, mais l'espace lui-même est chargé, you know, de leur présence. La naissance du hip-hop, les danseurs qui se retrouvent là depuis les années 80, etc., etc. Donc, il y a déjà une archive vivante, oui, you know, qui est présente. Et maintenant, il faut essayer de mettre cette archive vivante, cette mémoire en relation avec les textes qui sont dans les étagères. C'était un peu ça le challenge que nous nous sommes donné avec nos collaborateurs en France.
Oui, et donc cette bibliothèque Chimurenga à Paris, parce qu'en fait, il y a eu, je crois qu'il y a eu New York, Amsterdam, non?
Oui, c'était. Il y a eu San Francisco, surtout. Il y a eu San Francisco à cause des Black Panthers, à cause de la lutte noire aux États-Unis. Il y a eu Helsinki. Helsinki, c'est, on essayait un peu de trouver des textes qui réunissent le projet marxiste qui a été très important ici au moment de décolonisation avec l'histoire du panafricanisme. Et donc, nous sommes allés à Helsinki dans une bibliothèque qui réunit beaucoup, beaucoup de textes sur le marxisme. Et voilà. Et puis, voilà, c'était. Et puis, il y a eu Cape Town. Ça, c'est le contexte dans lequel nous avons installé la bibliothèque, dans une bibliothèque active. Mais souvent, la bibliothèque prend aussi d'autres formes. You know. Elle peut être installée dans un parc, elle peut être installée. Voilà, elle prend d'autres formes que celles des livres. Et voilà. Et ça s'est fait à Lagos, à Dakar et.
Et alors, pour revenir à la bibliothèque donc Chimurenga à Paris, au sein de cette BPI, donc Beaubourg, hein, qu'on dit Centre Pompidou, pour ce, peut-être à l'étranger, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent à l'étranger, donc c'est peut-être plus familier de dire aussi Beaubourg, c'est cet endroit central à Paris, vraiment au cœur de Paris. Et je me demandais aussi, après l'avoir visité, j'imagine que ce n'est pas simple à mettre en place parce que ça vient bousculer beaucoup de choses, que ce soit dans l'espace même de la bibliothèque, de façon concrète et matérielle, et très simplement parce qu'il y a du public qui vient travailler comme d'habitude. Donc d'ailleurs, on a dû, quand on a fait l'enregistrement avec Pascal Obolo, parler tout bas parce que c'est un endroit, c'est un endroit où les gens viennent pour étudier, pour travailler. Et dans une bibliothèque, je ne sais pas si c'est partout pareil dans le monde, mais en France, dans une bibliothèque, on n'est pas censé parler à voix haute. Donc ça vient bousculer pas mal de choses de façon concrète et matérielle, mais ça vient aussi bousculer des choses dans notre histoire ici en France, dans notre façon de la raconter, de la conserver. Est-ce que ça soulève des résistances de mettre en place une bibliothèque comme celle-là, une bibliothèque Chimurenga comme celle que vous avez installée à Paris ?
Et l'idée, ce n'était pas d'entrer en confrontation.
Oui, j'ai compris ça.
L'idée, c'était plus. Voilà, parce que pour moi, la confrontation a ses limites. Ça, c'est bénéfique, mais je pense que la confrontation est produite déjà par les personnes qui vivent dans ce contexte-là et ce n'est pas un événement, c'est dans le quotidien. Okay. Et donc, on ne voulait pas s'approprier cette histoire. Ce que nous, on voulait proposer, c'est une méthode qui dit que l'espace est là et il y a des gens qui travaillent dedans. Donc, de s'infiltrer plutôt dans cet espace et de créer un espace, disons, parallèle, oui, qui permet à ceux et celles qui occupent l'espace tous les jours de naviguer beaucoup plus librement, beaucoup plus ouvertement que dans les contraintes de l'organisation bibliothécaire, que ce soit le Dewey System et tout ça. Je dis, par exemple, l'étagère qui dit... littérature africaine, c'est extrêmement vague cette phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, d'ouvrir d'autres fenêtres qui permettent à ceux qui travaillent vraiment dans cet espace tous les jours de le naviguer différemment, beaucoup plus librement, basé sur leurs histoires personnelles. Donc, c'est vraiment un travail d'infiltration qui se fait sur la durée. Et donc, la bibliothèque est installée au fur et à mesure que les gens utilisent l'espace. Nous sommes là, nous-mêmes, comme les usagers de la bibliothèque. Sauf que, bon, on trace une ligne, voilà, mais pour la plupart, nous sommes là comme les usagers de la bibliothèque. Il faut la lire, et il faut la lire aussi entièrement que possible, avoir un sentiment assez précis de ce qu'elle contient pour pouvoir s'infiltrer dedans. Donc, les usagers de la bibliothèque viennent. Aujourd'hui, il y a une ligne sur le sol, mais la ligne, on essaie que la ligne rentre, apparaisse dès le départ comme si elle avait toujours été là. C'est-à-dire que c'est une intervention, mais c'est une intervention qui doit vous donner de la force, pas voilà. Donc la ligne doit apparaître comme si elle avait toujours été là et que vous l'avez en fait jamais vue. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire ce travail dans la durée tout doucement, vraiment s'infiltrer. Tout doit pouvoir paraître comme si la collection avait subitement doublé ou triplé de taille, sans qu'il y ait un seul livre qui soit ajouté de plus.
Mmh. C'est une belle image.
Oui, hein, il y a vraiment subitement beaucoup plus de possibilités de lecture, you know, mais c'est exactement la même collection. C'est vraiment ça l'idée, et d'éviter le spectacle, d'éviter le grand spectacle, le feu de paille qui vient et puis qui passe et tout le monde retourne, mais surtout se donner l'opportunité de produire de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de lire, voilà.
Oui.
Et ça prend du temps, voilà.
Et dans une interview pour le magazine Balise du Centre Pompidou, vous dites « Le fait que la BPI soit une collection contemporaine m'a aussi interpellée, car ce qui m'intéresse n'est pas seulement d'exhumer nos textes des sous-sols de ces institutions, mais aussi de scruter le matériel visible et en circulation pour produire de nouvelles grilles de lecture. Il s'agit donc de marquer les présences autant que les absences. » Et j'ai vu, en fait, sur place, ce travail considérable que ça a représenté de préparation, hein, puisque c'est dans les allées, au sol, dans tous les rayonnages, sur les tables, sur les trois étages de la BPI. Et j'ai trouvé ça, en fait, quand même vraiment frustrant et très dommage que ça disparaisse. Parce que là, vous dites justement l'importance que ça s'installe dans le temps. Et à vous entendre parler, j'ai eu un doute à un moment. Je me suis dit, mais en fait, est-ce que c'est resté en place ou parce que c'est, donc, est-ce qu'il reste des traces ou est-ce que tout a été enlevé maintenant?
Bon, ce qui est visible pour l'institution a été enlevé, ce qui est dommage parce que partout on a fait ce travail précédemment, en fait ça a été gardé. Si vous allez à la bibliothèque de Cape Town aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous verrez des traces du travail que nous avons fait il y a 12 ans. Et donc il y a souvent cette, justement parce que cette nouvelle couche que nous rendons visible rend le travail des bibliothécaires beaucoup plus facile et ouvert aussi.
Oui.
Voilà.
Puis ça éveille la curiosité pour les gens qui ne sont pas sensibilisés. Ouais. Ça attire l'œil sur ce qui a été invisibilisé, qui d'un seul coup est rendu visible, même si c'est fait discrètement. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais j'ai trouvé ça tellement frustrant. Je me suis dit, mais un tel travail, c'est tellement énorme. Je ne sais pas combien de temps vous avez mis déjà en amont pour préparer cette bibliothèque Chimurenga à Paris.
Bon, le travail de lecture avec nos collaborateurs à Paris, ça a duré un an. C'est tous les mercredis, pendant pratiquement la première année de la pandémie, on se retrouvait en ligne. Ça devait être fait sur place à Paris, mais à cause de la pandémie, on était ici, on travaillait avec une équipe à Paris de curateurs, dont Pascal, Paul Aimé.
Pascal Oboulot,
voilà. Et on se retrouvait tous les mercredis soirs à échanger. Et au fur et à mesure de produire cette bibliothèque parallèle qu'on voulait rendre visible en revoyant justement la collection de la BPI. Puis ensuite, on a passé 2 mois dans la bibliothèque elle-même à essayer de faire ce travail d'installation le plus lentement possible, le plus naturellement possible. Voilà, c'était ça le travail de préparation. Oui, c'est vraiment dommage que la BPI n'ait pas trouvé nécessaire de garder ça, mais bon, ce qui est clair, c'est que ce genre d'initiative produit toujours des, comment dire, bon, je sais pas, mais généralement des enfants, you know, des after, you know, légitimes et pas légitimes. Donc,
ça sème des graines.
Voilà. Puis voilà, tout de suite là, même avant que je parte de Paris, il y avait déjà des jeunes gens qui commençaient des initiatives de faire des choses similaires dans leur bibliothèque de quartier ou alors. Voilà, donc il y a. Parce qu'au fond, ce n'est vraiment pas une collection, c'est juste une méthode qu'on partage et qui est utilisable dans plusieurs contextes différents.
Oui, Oui, parce qu'en plus, ce qui était quand même aussi frustrant, c'est que c'était prévu sur ce mois d'avril et que le mois d'avril, c'est là où on est re-rentré encore une fois en confinement en France, en gros confinement, oui. Qui fait que même si la bibliothèque, en tant que bibliothèque, elle restait ouverte, parce que les bibliothèques sont restées ouvertes, mais tous les gens qui, eux, verraient ça comme quelque chose de culturel, comme une sortie, comme on va voir une expo, quelque chose où on va s'instruire, où on va comprendre, tous ces gens-là n'ont pas forcément eu l'idée. Enfin, voilà, on se disait, là, on doit rester chez nous. En plus, il y avait une limitation à 10 km. On n'avait pas le droit d'aller à plus de 10 km. Donc, en fait, après, moi, avec cette frustration, je me disais, mais pour conserver ce travail qui est aussi éducatif, est-ce qu'il n'y aurait pas eu possibilité, ou est-ce que ce n'est pas possible, de créer une bibliothèque par rapport à celle de Paris, une bibliothèque Chimurenga numérique, une version sous forme de site internet qui serait ensuite accessible à tous?
Pour moi, il y a l'information en tant que telle, c'est-à-dire que les publications, toute cette histoire de publication, de partage, de lutte, d'expérience, en gros, l'information. Et puis, il y a l'expérience. Le projet de la bibliothèque, c'est souvent de rassembler tout ça. Ce n'est pas seulement un partage d'une information qui n'est pas accessible, c'est aussi une validation de l'expérience des corps qui portent cette information. Donc, c'est super important. C'est pour ça qu'on fait cette installation dans une bibliothèque et pas dans un musée. Pour que ce ne soit pas seulement quelque chose à regarder ou à lire, mais c'est le corps qui circule dans cet espace. Donc, s'il y a un public, le premier public, c'est d'abord les gens qui travaillent à la bibliothèque tous les jours, que ce soit les bibliothécaires, les étudiants, les lecteurs, les sans-abri qui se retrouvent là, etc., etc. Tout ce travail est d'abord orienté vers eux et elles. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire que vraiment, de bouche en oreille, ce public s'élargit. C'est pour ça que la durée est importante. Ce public s'élargit avec des gens qui ont peut-être une histoire, une mémoire de cet espace, mais qui ne sont pas retournés là-bas depuis 10 ans. Voilà, ça s'élargit au fur et à mesure. Mais au départ, on pense surtout aux usagers de l'espace et comment est-ce qu'ils et elles utilisent l'espace. Où est-ce qu'ils se reposent? C'est là qu'il faut mettre les sessions. Comment est-ce qu'ils lisent ou regardent à la télé? Quelles revues ils observent? Sur quelle table ils lisent les revues? Voilà. Et vraiment d'étudier aussi attentivement que possible comment l'espace est utilisé au quotidien et de rentrer dans cette dynamique. Donc, et puis, il y a des gens qui sont là, qui viennent là tous les jours, peut-être pour lire le journal et qui ne font pas attention. Mais un après-midi comme ça, simplement, peut-être parce qu'ils ont fini leur lecture plus tôt que d'habitude, ils regardent sur le sol. Voilà, ça, c'est ce qui m'intéresse le plus.
D'accord.
C'est vraiment ce qui est présent, ce qui est devant nous tous les jours et auquel nous n'avons pas accès. C'est ça que je dis, la présence est aussi importante que les absences, parce que tout ce qui a été cité sur ce sol est dans cette bibliothèque.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de phrases au sol aussi. Hein. Il y a des cartographies sur les murs.
Voilà, tout ce matériel est présent dans la bibliothèque, mais est aussi opaque à cause de toutes ces grilles de lecture, de présentation. C'était de rendre ça plus accessible.
Là, il y a donc les livres qui sont marqués, il y a les marquages au sol, il y a une signalisation alternative, il y a la création de faux livres, j'aimerais qu'on en dise deux mots aussi. il y a les livres qui sont marqués, les livres qui manquent dans les rayonnages, il y a la route au sol, il y a les cartographies, ouais. Il y a les noms aussi des différentes parties qui ne sont pas nommées comme dans une bibliothèque traditionnelle, par exemple... J'en ai ramené plusieurs, jazz et vin de palme, combat pour le sens. Il y a quelque chose d'important aussi, parce que dans cette bibliothèque Chimurenga à Paris, au sein de la BPI, la musique était aussi très présente au milieu des livres. Est-ce qu'elle est toujours aussi présente dans toutes les bibliothèques Chimurenga? Et est-ce qu'elle est toujours indissociable de cette histoire?
Absolument, absolument. La musique... Pour nous, la musique, c'est le point de départ et le point d'arrivée. C'est essayer de comment dire, vraiment de se rapprocher le plus possible de l'archive audio. Parce que pour nous, c'est l'espace, c'est la plus grosse archive à nos dispositions et la plus accessible. Et donc, dans un espace comme la BPI, c'est vraiment de mettre cette archive au devant, toujours, toujours. Dans tous les espaces où on va. En fait, dans l'espace musique à la BPI, on a mis très petit, une très petite station parce qu'on voulait signaler en fait que tout cet espace-là, c'est à nous. You know, c'est peut-être le seul qui est à nous, tout de suite, qu'on s'approprie immédiatement. Et donc, on n'avait pas vraiment besoin de signalisation là-dedans. Et donc, oui, la musique, c'est, pour nous, c'est ce domaine de production de connaissances qui propose la méthode que nous essayons de rendre visible. Comment est-ce qu'elle circule, comment est-ce qu'elle est produite en groupe, collectivement, comment est-ce qu'elle n'est pas hiérarchisée, c'est-à-dire que ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Voilà, il y a tous ces éléments que nous tirons des mondes, des sons, qu'on essaie de rendre évident dans d'autres espaces. Par rapport au livre, au faux livre, l'idée, c'est qu'il y a un aspect spéculatif aussi de la bibliothèque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ce qui existe et qu'on ne sait pas ou qu'on sait, il y a aussi ce que, à mon avis, aurait dû exister, ou au moins existe dans l'espace imaginaire. Donc, par exemple, dans le premier roman de Sembène Ousmane, le grand écrivain cinéaste sénégalais, dans son premier roman, je crois que c'est le Docker Noir qui est situé à Marseille, je crois que c'est 54 ou quelque chose comme ça. Le protagoniste principal est en fait un écrivain qui écrit une sorte de livre de science-fiction basé sur l'histoire d'Ogon. Et je ne me rappelle plus très bien le titre du livre en ce moment. Et donc, ce livre est une sorte de véhicule qu'il utilise pour projeter vraiment une autre méthode de production de connaissances et tout ça dans le contexte de son roman, avec le plot et tout ça. Et donc, ce livre-là, pour moi, devient super important à rendre, à matérialiser. Et donc, on prend un livre qui n'existe en fait que dans une fiction, mais qui est aussi important que le livre qui le contient. Et on rend ce livre visible, on le produit en fait, et on l'installe dans la bibliothèque. Et donc, les faux livres, c'est souvent des constructions comme celle-là. Ça peut être un journal que Sonny Labutansi mentionne dans un de ses romans, qui bien sûr est une fiction, et qu'on réalise en fait et on l'installe dans la bibliothèque. Et donc la plupart des faux livres, c'est des livres qui complètent, qui rendent la division entre le monde réel et le monde imaginé plus poreuse, plus fluide. Et donc, pour nous, la bibliothèque, ce n'est pas seulement des choses physiques, des objets matériels qui existent, c'est aussi les imaginaires. Et donc, il fallait rendre ça visible d'une façon ou d'une autre. C'est comme ça que les faux livres interviennent, en fait.
Et vous avez aussi travaillé avec votre collègue Pascal Obolo, avec les étudiants de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy.
Ah oui,
c'était par rapport à ces faux livres, non? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble?
Oui, non, il fallait collaborer avec des artistes, des jeunes qui réfléchissent sur la forme, comment produire ces livres ensemble. Donc, on a passé quelques mois à imaginer ça ensemble. Et vraiment, c'était une très, très belle expérience, très, très belle expérience de collaborer avec eux.
À l'occasion de cette bibliothèque Chimurenga à Paris, vous avez édité un magazine chronique de Chimurenga, cet superbe magazine, donc un magazine chronique exceptionnel en français, alors que d'habitude, je crois que c'est plutôt en anglais. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, parce que moi, je l'ai acheté. C'est exceptionnel ce qu'il y a là-dedans. Et par rapport à la frustration dont j'ai parlé tout à l'heure, de ne pas avoir eu forcément le temps de m'attarder devant chaque rayonnage et chaque table et lire tout ce qu'il y avait à lire aussi dans les textes qui étaient proposés. Par rapport à cette frustration-là, c'est magnifique, je trouve, que vous ayez pu réaliser ça. Déjà, c'est conséquent, c'est quelque chose de, aussi de... Je ne sais pas combien de temps vous avez mis aussi à réaliser ça, mais c'est énorme le travail qu'il y a là. Et c'est quelque chose qui est accessible. Je vais mettre le lien pour ceux qui nous écouteront sur le texte de description du podcast vers le site de Chimurenga. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce que vous avez souhaité pour ce magazine chronique spécial Bibliothèque Chimurenga à Paris ?
L'idée, c'était que si justement la bibliothèque, c'est un espace de recherche aussi, la recherche, c'est pour produire quoi en fait? C'est ça qu'on propose à travers ce numéro. C'est voilà, toute cette lecture, toute cette réflexion, tous ces échanges avec nos collaborateurs en France et ailleurs. Voilà, c'est, you know, ça devient une sorte de système de référence qu'on utilise pour produire une nouvelle écriture, une nouvelle façon de discuter tout ça. Des cartes, des imaginaires, des représentations, des images, voilà.
Oui, il y a beaucoup des cartographies qui étaient à la BPI que l'on peut retrouver intégralement, hein. Donc ça, c'est agréable aussi.
Ouais. Les cartes ont été en fait produites pour la revue et donc l'idée de les présenter à la BPI, c'était de dire, puisque de toute façon, la bibliothèque Chimurenga, l'installation elle-même, la première chose qu'on propose, c'est de proposer une bibliothèque comme un texte qui est lisible. C'est-à-dire que toute la bibliothèque devient un texte que vous pouvez lire. C'est ça le rôle des citations sur le sol et toutes les lignes. Donc, vous avez vraiment un objet à lire. Mais au départ, c'était vraiment produit pour la revue, toutes ces cartes. Et voilà, que ce soit une sorte de bibliothèque qui est mobile, qui peut être transportée avec une nouvelle écriture, avec des textes qui ont été commissionnés par des écrivains actuels ou des journalistes actuels et contemporains.
Et il y a des belles photos aussi. Et alors, avant de terminer, donc, à l'occasion de cette bibliothèque Chimurenga en France, vous avez aussi installé PASS, la Pan-African Space Station de Chimurenga, une radio éphémère qui a pris place et qui a émis pendant 5 jours avec des invités dans la belle petite salle de spectacle du lavoir moderne parisien. Donc, j'ai vu que vous y aviez d'ailleurs participé. Moi, j'y suis allée, mais pas le même jour que le jour où vous y étiez. Pendant 5 jours, donc, qu'est-ce qui s'est passé et quel est son rôle à cette Pan-African Space Station ?
Et vous savez, comme on ne peut pas parler dans la bibliothèque, il faut absolument qu'il y ait un espace dans lequel le monde des sons est fully, complètement réalisé. You know, c'est un peu ça le domaine de PASS. C'est l'aspect, c'est cette archive, cette connaissance qui est contenue dans le monde des sons, où elle est vécue. Voilà, c'est une autre installation en fait, you know, où vraiment toute l'information nous parvient à travers le son, les dialogues, la musique, les discussions. Et ça va toujours en parallèle avec chaque installation de la bibliothèque.
Et ça, c'est vraiment éphémère. C'est-à-dire, on ne peut pas l'écouter en replay.
Pas toute l'installation, mais les programmes individuels vont être collectés dans des podcasts qu'on mettra en ligne.
Ah, d'accord.
Voilà, donc vous pourriez réécouter une
conversation. Parce que j'ai cherché pour le jour où vous y étiez, j'ai cherché pour Wessis Diop aussi, parce que je vais le rencontrer fin juin à Paris pour l'enregistrer.
Je vous dirai dès que c'est disponible.
D'accord. Et je crois qu'à Cape Town, vous avez un club de jazz aussi.
Oui, qui n'existe plus malheureusement. Ah. C'était aussi une aventure éphémère, comme tout, mais qui a laissé beaucoup de traces, Pour l'instant, la radio existe en fait comme un studio dans notre bureau, dans lequel nous recevons, you know, des invités.
Il y a des lives et tout ça.
Voilà. En plus des déplacements qu'on fait.
On peut l'écouter, par contre, sur Internet, parce que ça continue en dehors des moments spécifiques où vous délocalisez le studio pour suivre la bibliothèque Chimurenga. Et le DJing, donc ça, vous êtes toujours DJ, vous continuez ?
Oui, mais peut-être pas sur des platines tous les jours comme je le faisais avant, sur des pages maintenant, sur des espaces, sur... Voilà, je crois que DJ, c'est la méthode de lecture que j'utilise, la méthode de lecture et de production que j'utilise dans mon travail éditorial. Comment mettre les choses en relation, comment mettre des choses qui sont produites autonomously, c'est-à-dire qu'indépendamment en relation. C'est un peu ça que le DJ fait constamment sur une soirée et c'est un peu la méthode qu'on utilise pour travailler.
Oui, c'est toutes les ramifications de l'esprit Chimurenga en fait.
C'est ça.
Et c'est donc, ça. Avant de se dire au revoir, quels sont vos projets pour les mois à venir par rapport à Chimurenga et tout ça?
On travaille beaucoup sur le local, en fait. Il y a ces grands projets qu'on réalise ici et à l'extérieur, mais il y a vraiment le travail quotidien qu'on fait dans notre quartier, beaucoup de choses beaucoup moins publiques. La bibliothèque Chimurenga existe ici réellement. C'est notre espace de travail où il y a des jeunes étudiants qui viennent constamment chercher des choses. La radio existe aussi quotidiennement. C'est un espace dans lequel on reçoit des gens. Et puis, il y a la revue et les petites interventions éditoriales qui sont produites assez régulièrement. Puis ensuite, aussi, dans l'espace de Cape Town dans lequel on vit, il y a une dimension publique au travail qu'on fait. Donc, c'est un espace pour commencer. Et c'est un espace public. Et puis, il y a ces grands projets qui prennent des années à réaliser. Il y en a un sur lequel on a commencé à réfléchir. C'est l'histoire des radios qui ont été créées par les mouvements de libération pendant la lutte anticoloniale en Afrique. Ça, c'est une grosse recherche dans laquelle nous sommes impliqués. Ça prendra certainement quelques années parce que à partir du Caire, Alger, Accra, Conakry, Dar es Salaam, Lusaka, c'était des centres de rassemblement de tous ces mouvements de libération pendant une grosse partie du XXe siècle. Et il y a eu toute une infrastructure qui a été mise en place dans ces espaces-là qu'on essayait de relire, de réécouter. Donc ça, c'est un travail qu'on a commencé depuis quelque temps et qui continue.
Très bien. Je vous adresse un très, très grand merci, Anthony Adjabé, parce que je sais qu'on a énormément dépassé le temps voilà, qu'on avait dit au départ, mais qu'on avait dit aussi en seconde partie, puisqu'on a eu plusieurs obstacles avant de réaliser cette interview. Donc, des obstacles techniques, je précise, de part et d'autre. Et vraiment, je suis ravie qu'on ait pu faire un tour aussi complet de cette histoire Chimurenga. Je suis ravie de pouvoir la partager avec les auditrices et les auditeurs de Sous Suite Planète. Je sais que des gens vous attendent. J'ai vu apparaître des têtes derrière vous. Je pense qu'ils commencent à s'impatienter.
Comme je vous disais, c'est un espace public ici.
En tout cas, vraiment, c'était un plaisir et c'est tellement enrichissant pour moi et j'espère pour toutes celles et ceux qui nous écouteront. Donc, je vais mettre tous les liens, tout ça sur Sous Suite Planète. J'espère qu'on aura l'occasion de reprendre cette discussion ultérieurement. Merci beaucoup.
Okay. Donc, super. Voilà. C'est parfait. Merci à vous. Merci beaucoup.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de Sous Suite Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page Sous Suite Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site soussuiteplanète.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sous Suite Planète mis en ligne. À bientôt.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.